Et c'est donc d'abord sur la question de la parole de connaissance que nous allons nous pencher. Et c'est Neil qui commencera pour cette partie et Robert après.
Vous savez bien, dans tout débat, il y a plusieurs positions. Et je ne peux pas tout aborder, donc je vais donner deux positions qui se trouvent assez souvent. Donc pour certains, une parole de connaissance est un savoir surnaturel que Dieu donne sur l'état physique, psychique ou spirituel d'autres personnes. Donc j'ai trouvé la définition suivante dans un article d'Otto Tanner qui paraît sur le site web jesutherme.com. La parole de connaissance est d'origine surnaturelle. Il ne doit pas être confondu avec la connaissance acquise par l'étude. Il est plus qu'une simple illumination de l'intelligence produite par le Saint-Esprit pour nous faire réaliser certaines choses. Il ne s'agit pas non plus de l'esprit de révélation auquel tout chrétien a droit dans une certaine mesure. Le don de la parole de connaissance suppose la révélation surnaturelle d'un certain fait ou d'une certaine tâche à accomplir, que l'homme ne peut pas connaître par ses facultés naturelles. C'est une information surnaturelle d'un état ou de circonstances que Dieu seul connaît. Cette révélation peut être transmise par un songe, un ange, une voix audible, une vision, une intuition intérieure soudaine. Une définition semblable se trouve aussi chez un évêque anglican qui s'appelle David Pich. Pour lui, la parole de connaissance est un don de révélation surnaturelle au sujet d'une personne ou d'une situation. Une connaissance qui permet de dévoiler une vérité cachée de l'esprit et que l'esprit veut faire connaître au sujet de quelqu'un ou de quelque chose. La parole de connaissance comprise dans ce sens est parfois utilisée dans les séances de guérison. Il y a dans cette salle quelqu'un qui souffre de telle ou telle chose, par exemple. La compréhension plus classique, si vous voulez, plus traditionnelle, va dans un autre sens. La parole de connaissance serait la capacité de saisir le sens des textes de l'Écriture ou de la tradition orale. Il ne s'agit pas de désigner des expériences contemporaines telles que je viens de les évoquer. C'est dans ce sens que va le commentaire de Robert Sommerville sur 1 Corinthiens. Il dit « Il y a tout lieu de penser que la parole de connaissance a pour objet d'enseigner la vérité qui est en Jésus-Christ. » Il s'agit du ministère d'enseignement qui poursuit tout au long de l'histoire de l'Église par la prédication, la catéchèse, l'étude de la Bible. Ce double service de la parole semble bien correspondre au ministère désigné par les termes d'ancien ou évêque ou encore pasteur. Et il y a des pasteurs, des théologiens, entre guillemets non charismatiques ou non pentecôtistes, qui adoptent ce sens traditionnel. Donald G. G-E-E, théologien pentecôtiste anglais, écrit dans les cahiers de l'école pastorale, je cite, « À mon avis, la parole de connaissance est un don d'enseignement au sein de l'Église. » De même, Roland Perham, directeur d'une école biblique pentecôtiste en Suède, dit la chose suivante, « La majorité des textes indiquent que la connaissance concerne le salut, la gloire de Dieu, le Fils de Dieu, la volonté de Dieu. » Ces textes parlent donc en général de la connaissance du plan du salut dans ses divers aspects. Pas une seule fois, la connaissance ne concerne des faits cachés concernant une personne ou une situation. Il dit que depuis longtemps, cette conception est dominante dans nos églises et aussi dans les églises de Pentecôte de notre pays, donc la Suède. Donc je me sens plus proche de cette deuxième position et je vous dirai pourquoi. Premièrement, mais ce n'est pas une raison suffisante, il est difficile de prendre, pour moi, de prendre au sérieux une interprétation biblique qui ne paraît que 19 ans après la rédaction des textes. Si on pouvait prendre le temps d'examiner l'exégèse de ces textes dans l'histoire de l'Église depuis les premiers siècles, nous ne trouverons guère l'idée d'une parole de connaissance décrite comme dans la première définition. Donc si les gens qui ont d'abord entendu et lu ce texte ne l'ont pas compris dans ce sens, ça veut dire que tout à coup on a trouvé son véritable sens beaucoup plus tard. Or, ce que nous voyons le plus souvent dans l'histoire de l'Église, c'est que les interprétations des premiers siècles se modifient ou s'oublient avec le temps. Et dans ce cas, les réformes ou les réveils consistent à rappeler des vérités oubliées ou négligées. Le texte de Corinthiens 14 sur la parole qui circule a joué un rôle clé dans les premières années de la réforme, pour Luther, pour Zwingli, pour les anabaptistes. Et puis, comme c'est souvent le cas, les mouvements se sclérosent et étouffent la parole. Deuxième objection, je n'ai rien contre l'intuition ou l'idée qu'on peut apprendre quelque chose dans un rêve. Mais c'est plutôt l'idée que intuition, rêve, songe, spontanéité égale surnaturel. En fait, il me semble plutôt s'agir d'identifier l'action du Saint-Esprit à la subjectivité et à la spontanéité humaine. Il y a des gens qui ont une intuition forte, une capacité de nous apporter une parole bien précise dans une situation compliquée, et je n'ai rien contre cela, mais cette intuition doit être constamment nourrie, formée par la parole et ouverte à la contradiction des frères et des sœurs de la communauté. Il me semble, dans ces débats, il y a des présupposés non justifiés. Par exemple, si c'est préparé ou réfléchi, ça ne peut pas venir de l'esprit. Si c'est spontané, c'est de l'esprit. Je ne vois nul fondement biblique pour une telle approche. Quelque chose de préparé, même par un comité, peut venir du Saint-Esprit, comme il peut venir d'ailleurs. Quelque chose de spontané n'est pas forcément une parole de l'Esprit Saint, bien qu'il puisse aussi l'être. La foi chrétienne n'est pas une foi élitiste, la propriété de spécialistes. En même temps, la foi chrétienne a toujours engendré la réflexion et l'effort de comprendre la parole de Dieu dans des contextes toujours nouveaux. Donc c'est la parole qui a été faite chair et non pas l'intuition. Paul le dit clairement, la parole peut et doit circuler au sein de la communauté. Tout le monde peut parler, prophétiser et exhorter, mais c'est à la communauté d'évaluer. Et avec le temps, il devient clair que certaines personnes ont plus certains dons que d'autres. Mais en même temps, ces personnes ne devraient jamais monopoliser la parole ou empêcher les autres de parler. Nous avons besoin de paroles de connaissance et nous avons besoin de discerner qui peut nous apporter ces paroles. Besoin de les former, de les encourager, de les respecter, mais aussi de les contester s'il le faut.
Dans ma préparation, justement, j'ai opté pour la présentation numéro 1. Donc, voilà, ça va donner du relief, ça va donner un autre point de vue, puisque je vais prendre tout de suite l'exemple de Philippe, qui avait témoigné à Nathanaël, mais Nathanaël n'était pas trop impressionné, il était assez sceptique. Et quand Jésus a partagé une parole de Dieu avec lui, il dit, « Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu, toi, tu es le roi d'Israël. » Donc, il passe d'un état de doute à un état de foi. Il est persuadé, il dit, « Tu es le Fils de Dieu. » Donc, que s'est-il passé entre les deux? Jésus a dit, « Je t'ai vu sous le figuier. » Il a dit à Nathanaël où il était et ce qu'il faisait avant que Philippe ne l'appelle. et il n'avait pas vu de ses yeux naturels, mais le Père le lui avait montré. Autrement dit, Dieu sait toutes choses sur notre monde, et donc une parole de connaissance, ça peut être effectivement cette première définition qui avait été donnée tout à l'heure, Dieu qui nous partage un peu de sa connaissance pour que nous puissions venir en aide à quelqu'un. Et donc cette parole de connaissance l'a aidé à venir à la foi. Donc, je dirais, l'utilité et le but, c'est un outil d'évangélisation. Alors, il y a le cas de Nicodème, et je reviendrai à lui tout à l'heure, il y a la Samaritaine qui dit qu'elle n'a pas de mari. Et Jésus lui répond, tu as raison de dire, je ne suis pas marié. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Et là, elle répond, maître, je vois que tu es un prophète. Et puis, on voit l'histoire de Zachée, Jésus passait pour la première fois à Jéricho, il ne connaissait pas Zachée auparavant, mais il a interpellé Zachée par son prénom, et Zachée est descendu de l'arbre et est venu à Jésus. Et Jésus l'a aidé à quitter son ancienne façon de vivre et de rentrer dans une nouvelle façon de vivre selon Dieu. Alors, la parole de connaissance en ce sens sert à l'Église aussi, et donc elle permet d'aller à la racine. Donc c'est maintenant l'histoire de Nicodème. Il y avait parmi les pharisiens ce chef des juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus lui dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors là, quel rapport y a-t-il entre ce que Jésus vient de dire au verset 3 et le verset 2? Jésus répondait non pas à l'affirmation des lèvres de Nicodème, mais en fait au cri de désespoir du cœur de Nicodème. Nicodème, à l'intérieur de lui-même, voulait savoir comment faire partie du royaume de Dieu. Il avait juste commencé les salutations. Le don de paroles de connaissance a aidé à toucher à la racine. Et je pense que cela nous est arrivé à tous de faire cette expérience, quelqu'un bavarde avec vous, mais vous savez au plus profond de votre cœur que cette personne veut vous parler d'autre chose. Donc ici, Jésus va à la racine du problème et gagne du temps. Cela aide à prier avec précision, efficacité, de voir le besoin de quelqu'un qui est dans le besoin aussi. Donc c'est l'exemple d'Ananias et qui sait que Saul de Tarse est la rue droite et a besoin de prière. Cela sert à dévoiler les cœurs, donc l'histoire de Géasi, d'Ananias et Saphira. Et donc c'est utile, la parole de connaissance, pour le serviteur de Dieu lui-même. On peut penser à Élie, découragé, et Dieu lui apprend que 7000 hommes ont tenu bon. Donc le don de la parole de connaissance, ce n'est pas en fait une faculté humaine, un genre d'intuition, mais un don de Dieu. Il se manifeste comme le résultat de la communion avec le Seigneur. Le chrétien a quelque chose d'infiniment supérieur aux contrefaçons de ce monde. Parce que Jacques 1 nous dit, au verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » Donc les dons de Dieu viennent d'en haut, des lieux célestes, en Christ, et d'après Éphésiens 2, 6, Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, prendre soudain conscience d'un ami en détresse, ben, c'est le Seigneur, en fait, qui nous parle. Alors, tu parlais de ces 19 siècles de silence, mais je voudrais donner un exemple, c'est de Charles Haddon Spurgeon, né en 1834, mort en 1892, prédicateur baptiste anglais, et pendant qu'il donnait un serment à l'Exeter Hall, il s'est arrêté, et puis il s'est adressé à une personne en lui disant, « Jeune homme, les gants que vous mettez sont volés, ils appartiennent à votre patron. » Et donc après la réunion, le jeune homme a confessé le vol à Spurgeon et a restitué la paire de gants. Et puis une autre fois, il a dit, il y a un cordonnier dans la salle mais il travaille le dimanche. Et puis, donc, ce cordonnier s'est aussi repenti de cela. Et Spurgeon de dire, j'ai vécu une douzaine de cas semblables dans mon ministère. Et souvent, dans les réunions, les voisins des personnes concernées par une parole donnaient un coup de coude et disaient, il m'a dit tout ce que j'ai fait là. Bon, donc c'est un exemple de cette action de la parole de connaissance, mais cela ne signifie pas que Dieu n'agit pas dans les préparations, loin de là. Ce n'est pas contradictoire. Voilà, bien, je vais m'arrêter là.
Voilà, merci à tous les deux. Est-ce que vous auriez des questions par rapport donc à ces deux premiers exposés concernant la parole de connaissance?
Est-ce que l'étymologie en grec de connaissance apporte quelque chose?
Donc, je répète les questions parce que c'est enregistré. Donc, est-ce que l'étymologie du mot connaissance apporte quelque chose au débat?
Je ne pense pas.
Non, c'est gnosis, connaître.
Il ne semblerait pas.
Est-ce que Spurgeon appelait ces manifestations paroles de connaissance, ce qui lui plaît?
Donc Spurgeon appelait-il ces manifestations dont Robert a parlé des paroles de connaissance?
Non, simplement il a cité le fait, et donc voilà, donc j'ai mis un rapport avec la parole de connaissance.